Ah, ma très chère Misia.
Très cher ancien.
Ça va ou quoi?
Ça va, il commence à faire froid encore.
Ouais, bien fait. Moi, j'ai chaud, j'ai
Ah
très
voilà.
chaud. J'ai coupé le ventilo pour le micro, mais je peux te dire que j'ai chaud. Ouais. Bref.
Et qu'est-ce que tu as ressorti de beau du coup pour accompagner cette journée de chaleur?
J'ai mis un parfum que j'aime énormément. J'ai mis patchouli nozibé extrait pour
Oh.
l'iris. Oui. Je peux te dire que je suis au chaud. Et je rejoins, tu sais, j'ai pensé toute la journée, je pensais à la panthère, notre très cher acolyte. Parce qu'il disait, il a ce truc de dire que lui préfère les parfums en été. Évidemment, je veux dire, c'est logique, tu vois, ça prend de l'ampleur, ça se développe autrement. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi moi, c'est le contraire. C'est juste que moi, j'ai du mal avec l'été et j'ai pas envie qu'un parfum m'emmerde. Tu vois? Donc, mais vraiment, je le rejoins. C'est franchement, c'est le parfum, c'est autre chose en été, tu vois. Ça, il y a tout qui explose. C'est franchement, c'est magnifique. Hein. Là, voilà, je suis content. Juste, j'apprends à moins doser pour pas m'emmerder, quoi.
Asphyxié.
Ouais, exactement. Et toi, tu as mis quoi dans ce froid alors?
Alors, moi, bah, écoute, j'ai mis une petite douceur que je m'approprie. J'ai sorti Equistrius de Parfum d'Empire. Alors, Equistrius que j'ai longtemps boudé à cause de son nom, bizarrement.
Ouais, mais t'es pas la seule, hein.
Avant que Corpus Equus n'existe, je pensais sentir quelque chose comme ça dans Equistrius, donc je ne le sentais pas.
C'est ça.
Alors que ça n'a rien à voir.
Ouais.
C'est tout doux, c'est poudré, il y a de la violette, de l'iris, il y a un fond, le fond me rappelle un petit peu cuir ottoman, là,
Oui.
de loin. Voilà, il n'est pas prise de tête, il est hyper délicat, très, très joli, très
C'est
joli.
beau, hein, c'est beau. J'allais justement dire, je pense que ce parfum, il est sous-coté. Bon, déjà, il est
Ah, carrément.
sous-coté, mais je pense aussi à cause de son nom.
Mais oui.
Parce que tout le monde s'attend à sentir Galop d'Hermès ou Corpus
Bah
Equus,
oui.
tu vois.
Bah oui.
C'est dommage à
Bah oui.
sentir, hein. Ouais.
Bah franchement, oui. C'était un de ceux. J'en ai pas mal de parfums d'Empire et j'en connais pas mal, mais celui-là, je le connaissais pas, donc je me suis dit, bon, on va se remettre un peu, se pencher sur la question. Bah, j'ai bien fait, tu vois.
Ah
Parce
oui.
que c'est vraiment. Voilà, j'avais un a priori vraiment complètement idiot là-dessus.
Non mais moi j'ai eu pendant longtemps. Hein. Pendant longtemps, je me suis dit, ah, ça va, l'écurie, c'est bon. Et comme j'ai aimé Corpus Equus, je me suis dit, t'as pas de raison. Faut sentir celui de parfum d'Empire.
Là, rien à voir.
Et tu sens, tu dis, ah merde. Étonnant. C'est marrant, mais c'est vraiment, c'est des trucs de con. Hein. C'est un beau parfum, c'est un beau parfum. Vraiment. À sentir et voilà, sans œillère, sans jeu de mots.
Voilà.
Très bien, joli, un peu de vrainiche, quoi. Ça fait plaisir.
Ouais.
Très cher Misia, on va parler culture. C'est la meilleure chose à faire, vu que la Parfumerie Podcast, des fois, on en a marre de parler de parfum. Au moins, on peut parler culture parfum. C'est plutôt cool. On va recevoir Maïté Turonnet, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, Maïté Turonnet, qui est auteure de plusieurs livres. Alors, Parlons Parfum, qui est sorti en 90, de l'ABCDR du Parfum en 98, et là, elle est revenue signée en 2022 aux éditions Ni Littérature, un livre qui s'appelle Pot pourri
Oui.
et qui est sous-titré, j'adore ce sous-titre, L'anti-encyclopédie des odeurs que vous n'avez jamais lues.
Ouais. Magnifique ce livre.
Voilà,
Magnifique.
donc elle est Maïté Turonnet, également journaliste, et elle a travaillé pour de grandes maisons, Elle, Libération, L'Express, et actuellement elle a le poste de rédactrice en chef à Citizenka International.
Très bien. Joli CV. Très chère Maïté Turonnet, un honneur de vous recevoir. Ça fait très très plaisir. Déjà, j'espère que tout va bien.
J'ai un peu froid aux orteils,
Ah.
mais il fait froid chez moi. Hein. Moi, je suis pas dans l'Afrique heureuse et tropicale.
Il fait
Je
chaud chez moi.
suis. Ah oui, mais bon, ça sent moins la latérite ici. C'est. Mais il fait froid! Putain, il fait un froid de gueux en ce moment, sur le bord de
Courage.
l'océan.
Très bien, bah, c'est une belle introduction. J'ai envie de commencer tout simplement par un petit truc qui m'a interpellé quand on s'est appelé sur WhatsApp la dernière fois, où on parlait évidemment de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, l'industrie du parfum. Et vous disiez que, globalement, bien sûr, que vous ne voyez pas la place de l'art olfactif, hein, dans ce que font aujourd'hui certains parfumeurs, c'est-à-dire en gros, ils suivent un brief et puis ils composent ce qu'on leur demande. J'avais envie de revenir un peu là-dessus parce que je trouvais ça très intéressant. Quand on nous bombarde avec le parfum est une œuvre de l'esprit, évidemment, ça ouvre une porte vers l'art.
Que le parfum, selon la législation, n'est justement pas une œuvre de l'esprit.
Exactement. Et vous,
C'est
comment vous voyez ça?
un savoir-faire.
Oui.
Moi, je pense que c'est toujours des histoires individuelles, qu'il y a des gens plus doués que d'autres, incontestablement, et que la douance, être doué, ça veut dire avoir du talent pour quelque chose. On peut être un maçon, par exemple, formidablement doué et un maçon nul. On peut être un coureur automobile de compète et puis celui qui finira toujours dernier. On peut être un médecin hors norme et puis un crétin qui ne prend même pas l'attention. Bon, bref, tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est que le talent? C'est l'intuition. Pour moi, c'est ce qui dépasse la pensée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort, on ne sait pas d'où, et qui prend forme. Voilà, je pense que les artistes le sont malgré eux, en quelque sorte. Ça s'exprime, ça vient tout seul. Enfin, ça vient tout seul. C'est beaucoup de boulot, mais en même temps, ça peut. Enfin, moi, je ne me prétends pas du tout. Je ne suis pas une artiste. Alors, que ce soit posé, du tout. Je ne suis pas un écrivain. Je suis une journaliste qui prend plaisir à écrire et qui, en écrivant ce bouquin, a découvert un truc. Bon, mais cela dit, dans mon, j'étais plutôt une bonne journaliste. J'ai pas la peine de se cacher derrière son petit doigt et j'écrivais correctement. Et c'est sûr que ça va parfois plus vite que la pensée. C'est tout d'un coup, on tape et puis il y a un truc qui sort et on se dit, ah oh, putain, c'est pas mal.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Mais oui, mais c'est ça.
C'est
Et
vrai.
donc, je pense que c'est exactement la même chose pour les parfumeurs. Je pense que les parfumeurs ont des briefs, qu'ils font des objets commerciaux soumis aux règles d'une industrie, mais que les mecs qui sont doués et à qui on fait un peu, et même si on leur fait pas confiance, peu importe, ça sort. Ça vient. Moi, il m'est arrivé de me faire renvoyer des trucs à la gueule, mais parce que les gens qui l'avaient reçu savaient pas le lire.
Ouais.
Dans des briefs à la con qu'on m'a fait, je me souviens un truc. Bon, enfin, passons. C'est arrivé plusieurs fois, mais je me suis dit, mais ces gens-là, c'est pas possible. Mais ils sont dans les cavernes. Bon, je pense que c'est la même chose en parfumerie, hein, qu'il y a des chefs de produits dans tous les coins qui ne comprennent rien à rien.
Ouais, tout à fait,
Vous
bien
savez bien
sûr.
ceux qui regardent en table une toile de Picasso et qui disent, ah oui, ah ben, mon garçon, il a 4 ans, il fait aussi bien. Voilà.
Ça, c'est
Donc,
déjà
l'art, il
entendu.
faut aussi le voir. Comme disait Malraux, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Et donc, c'est le senteur qui fait le parfum.
Oui, je suis d'accord.
Hein?
Je suis
Après tout,
d'accord.
c'est la façon dont on reçoit. Mais je pense quand même, non mais bref, pour en revenir à ça, que malgré leurs impératifs, leurs contraintes et leur réalisme, leur sens des réalités, il y a des parfumeurs qui sont des artistes, mais contraints. Et c'est peut-être aussi bien, parfois c'est très bien d'être bordé,
Ah oui.
d'être pouvoir s'exprimer au mieux.
Ouais, il faut être encadré quand même. C'est logique, de toute façon. Bon, après, c'est des sociétés gigantesques. Je veux dire, ils prennent des risques, donc c'est un peu normal pour moi. Hein. On ne peut pas jeter la pierre sur tout, je pense. Mais je pense que oui, que tu ne peux pas laisser non plus quelqu'un s'exprimer, aller dans n'importe quel sens aussi. Hein. C'est un peu logique, quoi.
Non, non, mais là, je ne faisais pas forcément référence aux mecs qui bossent chez IFF ou Francis Kurdjian chez Dior. Enfin, je dis n'importe quoi. Quoique.
Non, mais même dans la niche, pour moi. Hein. Même dans la niche.
Mais je parlais surtout de ceux, soit qui sont à leur compte, soit qui, voilà, qui qui s'autorisent d'eux-mêmes.
Oui.
Lacan disait, un psychanalyste, ça s'autorise de soi-même. Eh ben, il y a des plus ou moins vrais parfumeurs, directeurs de je ne sais quoi, qui s'autorisent d'eux-mêmes.
C'est
Donc,
ça.
c'est-à-dire qu'ils n'ont effectivement personne pour les diriger, les cadrer, et ce n'est pas forcément une bonne idée.
C'est ça dont je parlais.
Ropion, que j'aime beaucoup, dont je pense évidemment, comme tout le monde, que c'est un talent gigantesque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que Ropion tout seul, je ne sais pas ce que ça donne. Ça m'intéresserait bien d'ailleurs de savoir.
C'est vrai. Bah ouais, ça, il faut lui, on va lui demander.
Bonne idée.
Ça, c'est bien.
Donc là, on parle de savoir-faire individuel. Et à contrario, comment est-ce que vous voyez l'arrivée de l'intelligence artificielle justement pour formuler les parfums?
Voilà, c'est vrai que c'est un bruit. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, l'intelligence artificielle, elle peut formuler, je pense, à peu près aussi bien que 70% ou 80% des mecs qui sont payés pour ça. Hein.
Ouais, c'est lié à la première question, hein. Vraiment.
Ah oui, non, mais
Ouais.
bon, c'est toujours pareil. Il y a, je vous disais ça sur les concierges ou les professeurs de médecine ou les journalistes ou les parfumeurs. Il y a, je pense qu'il y a 5% de talent, enfin, on va dire, allez, on va être plus généreux. Je ne sais pas si on peut être une concierge géniale, mais mettons 5% de génie, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. 10%, 15% de talent, et le reste, c'est du tout venant, mais il y a aussi 20% de nullissime.
Oui, ça existe quand même.
Hein, on va faire une pyramide olfactive, et ben voilà, on en est là.
Ouais.
Donc, pour en revenir à l'intelligence artificielle, je pense que telle qu'elle se développe, et pour autant que enfin, que je suis ça de près, ce qui n'est pas du tout le cas, il me semble, enfin, je me suis, comme tout le monde, amusée à jouer avec ce truc qui vous donne les réponses
Ah
toutes
oui.
faites. Je crois que je suis certaine que l'intelligence artificielle peut composer aussi bien que les 80% de moyens ou de nuls, évidemment.
Et c'est vrai.
Mais des recettes, j'en ai long comme mon bras. Je dis ça des recettes, hein, pas des formules, parce que ce sont vraiment des recettes. J'en ai plein, mais paperasses, moi.
Oui, belle réponse. L'intelligence artificielle peut effectivement produire 80% de ce qui se fait aujourd'hui. Hein.
Ah, largement.
Ouais, c'est vrai.
À mon
C'est
avis,
triste, mais
bien
c'est vrai.
plus. Mais bon.
Ouais. C'est très, très vrai.
Mais de la même manière, je pense que l'intelligence artificielle est à deux doigts de pouvoir produire ce que font les petites mains du journalisme
Ah oui. Ouais,
depuis toujours, évidemment.
quelle époque, c'est dur, hein. Mais bon, on fait avec.
C'est-à-dire que la question est de savoir quand est-ce que l'intelligence artificielle pourra prendre 85% des gestes et actions qui nous concernent tous, je ne sais pas moi, gouvernementaux, vous voyez, économique globale, enfin, écologique, enfin voilà. Je pense que ça ne peut pas être pire. Finalement, vivement les robots, quoi.
Ouais, c'est vrai. Il risque pas d'empirer quelque chose. Enfin bon, j'espère, parce que sinon, ça sera déjà au fond du trou.
Ça peut toujours être pire.
Bon, on parle parfum, évidemment, industrie. on est dans une époque, ça ne date pas d'aujourd'hui évidemment, mais forcément on est, ça monte toujours en degré. On est vraiment dans une espèce d'époque industrielle de la culture parfum, enfin du parfum, de la parfumerie. Et on est vraiment au cœur de la vague d'un rouleau compresseur. C'est nous, vraiment, notre démarche à Parfumerie Podcast, c'est d'apporter de la culture. C'est pas spécialement, je veux dire, on n'est pas des génies, on n'est pas des, on se débrouille. Mais moi, j'ai envie de parler parce que ce qui nous fait plaisir de vous accueillir ici, c'est que pour nous, vous représentez vraiment la culture parfum. Vous représentez la culture parfum.
J'allais dire l'avant-guerre.
Non, pas du tout. La culture parfum, et ça se ressent dans Pot Pourri, votre dernier bouquin, ça se ressent à mort. C'est-à-dire, chaque page, c'est de la culture. Il y a de la critique, il y a tout. C'est un concentré qui part dans tous les sens. Avant que vous arriviez, on parlait avec Misia des petits chapitres sur les Japonais, la fameuse légende que les Japonais n'aiment pas le parfum. Moi, j'aime beaucoup les chapitres sur numéro 5, parce que personnellement, je ne connais rien de tout ça. Et je trouvais que c'était juste incroyable, en fait. Et donc ça, c'est du concentré de culture. Est-ce que vous sentez quand même, parce que vous avez un bagage que nous, on n'a pas, dans ce magma industriel, est-ce que vous sentez quand même que cette culture, ça vous protège, ça vous aide en tout cas? C'est plus comme ça qu'il faut le dire.
Alors, deux choses. Je réponds d'abord à cette question. À titre personnel, je me sens protégée. Je me sens pas en danger.
Non.
Est-ce que je me protégerais? Les parfums ne m'agressent pas. Je vous ai dit en début de conversation qu'en réalité, ça m'était égal. Je m'en fous. Quant au fait que ça soit une... J'ai été frappée par ça dans un de vos podcasts. Vous insistez beaucoup sur le poids de l'industrie qui écrase tout.
Oui.
Et c'est ce que vous me redites là maintenant. Mais quoi de neuf? Enfin.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais quoi de neuf? Ça a l'air, vous avez l'air de dire on est au. Ça n'a jamais été aussi pire, etc. C'est pas vrai. Ça a toujours été comme ça.
Mais toujours. Même au niveau qualitatif?
Oh, ben, bien sûr. Enfin, non, pas tout. Non. C'était sans doute mieux avant. Ça, c'est
ce détail-là, en fait. C'est juste ce détail.
J'avais jadis, c'était cité par un truc qui n'existe plus, s'appelait le Club des créateurs de beauté.
Ah oui.
Vous avez connu ça.
Ah oui. C'était formidable.
Et donc, il m'avait demandé de travailler sur un parfum pour Michel Klein, je crois, qui est un styliste parisien. Et j'avais, alors c'est la seule fois où on m'a donné des éléments de cet ordre, ils m'ont donné les coûts. Et c'était en francs encore. Hein.
Ouais.
Et l'instruction était de ne pas dépasser 600 francs au kilo.
Ouais.
Ce qui, mine de rien, est colossal. Si on fait le rapport, je ne sais pas combien ça fait 600 francs en euros ou en francs constants, enfin bref, mais c'était beaucoup. C'était vraiment
euros,
beaucoup pour un pour, alors qu'aujourd'hui ça, si on dépasse 15 balles c'est le bout du monde hein. Non mais c'est vrai,
ouais, c'est vrai.
Pour un parfum Michel Klein au Club des créateurs de beauté, c'est pas non plus, enfin c'est de la vente par correspondance, enfin c'est pas l'avenue Montaigne hein. Donc effectivement je me souviens que dans Aromatique Elixir il y avait de cliniques, dis-je pour les gens qui nous écoutent, il y avait 30% de naturel dans le concentré. Alors, je ne sais pas à combien c'était, je ne sais pas combien coûtait le concentré, mais je sais qu'il y avait 30% de naturel, ce qui est colossal.
Oui, clairement.
Et qui, ça c'est vrai, ça n'existe plus.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Mais, ouais, ça c'est incontestable. Et que par contre, quand il y a... je ne sais pas, 0,01% de rose de grâce, on vous en fait, mais alors des tartoches pour vous expliquer qu'on est à grâce depuis la nuit des temps et que s'il y a bien quelqu'un qui connaît la rose, c'est la maison en question. Bon, voilà.
C'est vrai. Alors, quand on parle de rouleau compresseur et d'évolution dans ce sens-là, déjà, bah, évidemment, il y a le qualitatif, mais on sent quand même, de toute façon, les exemples là, que vous citez, c'est ça, Si on prend l'industrie des années 80, on avait quand même des beaux produits qui sortaient. On avait des belles
Comment
choses.
le savez-vous? Comment le savez-vous? Vous
Parce que je
avez
suis
été
vieux.
le squatter. Non, mais est-ce que vous avez. Vous êtes vieux. Bon, d'accord, c'est vrai, l'ancien. Mais est-ce que vous avez. Il faut aller à l'osmothèque, quoi,
Oh, moi
en avant.
j'ai été,
Mais on y a
mais
traîné nos guêtres.
j'ai
Ben
été à
voilà.
l'osmothèque.
Et c'est la seule solution pour savoir ce que ça sentait.
Bien sûr,
Mais
bien sûr.
effectivement, il y avait de belles choses, c'est vrai. Mais il y en avait d'affreuses aussi.
Ouais, c'est
Moi, je me
ça.
souviens très bien du premier parfum marketing, entre guillemets. Et j'en ai pas parlé dans le bouquin. Mais c'est un truc qui s'appelait Charlie. Et
Oui,
ça avait été fait par
Revlon.
Revlon.
Oh ouais,
Et
ça me
la
dit quelque chose.
pub, c'était une fille qui marchait à grande enjambée en pantalon.
Ouais.
Ça doit dater de la fin des années 70, je ne sais plus très bien.
76, je crois, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et effectivement, ce parfum-là s'affirmait, revendiquait une écriture de parfum plus accessible, beaucoup moins statutaire ou portée par des femmes libres, vivantes et pas engoncées dans la bienséance sociale. Et ça a été un très, très gros succès. Mais c'est à ce moment-là que ça a commencé, je dirais.
Oui, effectivement. Ouais.
Avant ça, c'était des trucs de. Parfum, c'était un truc. C'est comme les colliers de perles, si vous voulez.
C'est vrai. Non, mais l'industrie a amené des choses de toute façon. Hein. Rendre un parfum accessible, moi je veux dire, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on demande plus? Surtout commercialement, quoi.
Bah, qui sentent bon,
Oui, ouais, déjà,
voilà.
ben ça, c'est la première chose. Mais. Non, quand je parle vraiment justement de rouleau compresseur, c'est d'abord évidemment au niveau marketing, on n'avait pas autant de marques. Aujourd'hui, c'est le bombardement, chacun veut faire sa place. Bon, je veux dire, ça, c'est la règle du
Ben, c'est la
commerce.
niche qui s'est
Où
ajoutée.
la niche est ajoutée, mais la
Voilà.
niche.
Et maintenant, tout le monde, effectivement, de Maria Carey à Donald Trump,
C'est vrai.
veulent tous faire leur parfum, c'est vrai.
Ben, la niche, justement, ça c'est un beau sujet. Depuis l'avènement de la niche, enfin le départ de la niche plutôt, ça proposait autre chose, ok, on va dire, un retour à la parfumerie, ok. Mais aujourd'hui, on se retrouve un peu comme quand je parle de bombardement et de saturation de marques, aujourd'hui c'est insupportable.
Mais moi, je ne suis pas, je suis plus dans le coup, je vous l'ai dit.
Tant
Je,
mieux.
je, non, non, mais je m'en fous, qu'est-ce que j'en ferais? C'est ma copine Denise Beaulieu qui fait des papiers parfums
Oui.
maintenant, et c'est beaucoup mieux parce qu'elle, elle suit l'affaire. Moi, pas du tout, j'ai lâché le truc il y a un moment parce que je pense que c'est pas possible, il y en a effectivement beaucoup trop. Et vous-même, vous me parlez de trucs dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas de quoi vous causez. Vous semblez vous intéresser, vous, à Arcouist, enfin, je ne sais pas, des marques comme ça, que je n'ai jamais senties et qui paraissent pas mal. Mais bref, ça fait un plus, enfin, ça fait deux, quoi. Il y a l'industrie, la niche, il y a même trois. Il y a l'industrie, la niche et la niche industrielle.
Exactement.
Ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup, bien sûr. C'est très difficile, hein. Bon, je veux dire, chacun a sa place, quoi. Il y en a qui font du business, il y en a qui font du parfum. De toute façon, ça revient à ce qu'on a dit au début, quoi.
Et
OK.
peut-être qu'on peut faire les deux avec harmonie, c'est pas interdit.
Non, il y en a, heureusement. Heureusement, bien sûr. Puisqu'il y a du beau. C'est
S'il y en
fini.
a, quand il y en a, oui.
Ouais, exactement. Ah, c'est bon, il y a des pages qui se tournent. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et c'est une question, justement. Il y a quel parfum qui vous a enchanté, qui vous a marqué? Je parle vraiment sur une vie. Hein. Il n'y a pas de date, quoi.
Ah ben moi, c'est l'eau de Cologne et à peu près point barre.
D'accord.
Bon, ça c'est mon tropisme, c'est moi,
Ouais.
c'est voilà.
C'est beau l'autre colonne.
Ah ben c'est un rapport très personnel. Enfin, moi, je ne me suis jamais parfumée pour séduire, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Mais bon, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas à quoi je ressemble, etc. Je n'ai jamais été dans ce. Enfin, je ne suis pas particulièrement moche, ce n'est pas la chose. C'est que Moi, ça m'intéresse pas de séduire en papillonnant des yeux, voyez, ou en mettant des décolletés profonds. Les signes extérieurs de la féminité ne m'intéressent pas. Voilà. Et je précise pour les gens qui se posent la question, je suis effectivement tout à fait cisgenre. Mais, comme on dit, mais en revanche, enfin, donc le parfum ne fait pas partie. C'est pas plus que je me maquille quasiment pas, sauf quand il faut avoir l'air, quand je vais dans des trucs un peu proutes. Mais c'est pas mon truc. J'ai jamais porté de talons aiguilles. Enfin voilà, bon. Et j'ai pas dû porter une robe depuis, je sais pas, 30 ans. J'ai les cheveux gris, coupés au carré. Bon, voilà. Et le parfum, bien entendu, c'est pas du tout un outil de séduction pour moi, mais d'abord parce que j'y crois pas. Je crois pas à ces fariboles parce que sans, bon, voilà, c'est, j'y crois pas. Donc le parfum, c'est pour moi, c'est mon plaisir personnel, c'est très intime, enfin c'est très intime, c'est fugace et égoïste. Voilà. L'eau de Cologne, c'est ce qu'il y a de bien avec l'eau de Cologne. Quand on l'utilise à l'espagnol, c'est qu'on s'en renverse au goulot, quoi. C'est comme le caviar, moi je dis. Le caviar, ça se mange pas à la petite cuillère, ça se mange à la louche. Eh ben, l'eau de Cologne, c'est pareil. Mais toutefois, il y a des parfums que j'ai trouvés absolument admirables, sans pour autant les porter.
Oui, voilà.
Alors, il y a des parfums de butin, ce que j'ai beaucoup aimé.
Ah.
Jadis, maintenant il ne nous en voit plus, il est fâché, moi aussi. Non, mais il a vraiment, je ne sais pas, encens et lavande, j'ai trouvé ça formidable. Enfin bref. Ah, vous vous souvenez d'encens et lavande? Oui,
Pas moi,
ouais,
ouais.
je l'ai senti ouais, au Palais Royal, oui. Ouais, bref, goudron et plume, moi je l'appelais. Mais bref. Et puis il y a Tobacco Wood de Tom Ford que je
Ah, ouais.
trouve parfait.
Magnifique.
Parfait. Mais je le trouve parfait. C'est-à-dire que tout y est à sa juste place, c'est parfaitement équilibré, ça a la puissance qu'il faut, sans excès. C'est une beauté absolue, voilà. Bon, après
Suis
ça, je
content
peux
de
m'en
l'entendre. J'aime beaucoup ce
sortir. Mais
parfum.
Tom Ford, qui est un type que j'ai rencontré, c'est un type très intelligent, je crois, et qui se mêle de tout ce qui porte son nom. Il met le nez dans le parfum, absolument. C'est pas lui qui le fait, hein. C'est Karine Khoury, elle s'appelle, la fille
Oui,
chez Pierre.
celle qui dirige là.
Oui, mais je pense qu'il donne son aval ou il refuse, il sent, je pense qu'il sent absolument tout. C'est un vrai directeur artistique, réellement. Et ça se sent, parce que ce sont des parfums très signés.
Ouais, souvent, ouais. Souvent,
Ce qui est le cas de Lutens, ce que je sache, n'a jamais touillé un jus de sa vie.
ouais.
Mais il y a une écriture qui est, enfin, il est directeur artistique. C'était pareil avec Camille Goutal. Je parlais d'Isabelle Doyen il n'y a pas longtemps, dont je respecte absolument le talent, etc. Mais avec Camille, il y avait un truc en plus. Je crois que c'est un des derniers qu'elles ont fait, puisque Goutal est morte jeune. Ça devait s'appeler Ce soir ou jamais, un truc comme
Oui,
ça.
oui, oui.
Et on avait fait un test avec des copains chez moi. On avait senti tous les trucs à base de rose que je pouvais avoir. Et il y en avait un paquet. Et dans l'ensemble, j'étais finalement. C'est très intéressant de faire des. Ça se fait en œnologie, hein, de comparer comme ça les trucs. Et donc, ce soir ou jamais, ben, c'était vraiment le meilleur. Il était absolument remarquable. Et ça, je pense qu'Isabelle Doyen n'a pu le faire que parce qu'elle était avec Annie Goutal, qui avait une personnalité extrêmement forte. même si
C'est ce
elle
qu'on dit
tenait au
souvent.
storytelling plus qu'à toute autre chose. Voilà. Oui, non, et puis bon, c'est sûr aussi, mais ça, je le dis dans mon bouquin, une chose qui s'appelait Ho-Hang autrefois, c'était chez Balenciaga, et c'était ce qu'on appelait un oriental, un oriental masculin, assez espérité, et très, oui, c'est ça, assez boisé, encensé, enfin, c'était pas mal, hein. Et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai découvert Mouchoir, le monsieur,
Ah oui.
Garlin, que j'ai beaucoup aimé, jusqu'à ce que je découvre que c'était le parfum de mon père et que ça me flanque par terre, ça. Parce que bon, voilà, j'ai pas beaucoup fréquenté mon père. Et
Ouais.
sans regret, d'ailleurs.
J'avais une question sur la critique parfum. Alors, vous avez évoqué Denise Beaulieu, qu'on apprécie beaucoup à la Parfumerie Podcast, notamment. Comment est-ce que vous voyez, Maïté, la critique parfum d'aujourd'hui par rapport à celle qui existait avant le net? Tout le monde dit tout. Bon, voilà, c'est un peu rapide, certains avis qu'on peut voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de critique et quel avenir vous pensez que cette critique a par rapport notamment aux réseaux sociaux et cette démocratisation de la parole?
Alors moi, je suis contre. J'en suis contre. Parce que la critique, c'est... La critique a... La vie des gens, je m'en fous. Voilà. La vie personnelle de Denise de Beaulieu, de Maïté Turonnet ou de Yann Servier, de Tartempion, je m'en contrefous. Mais vraiment, je me fous c'est pas un sujet, savoir quel est le goût de l'individu qui parle. C'est pas comme ça. La critique, la critique ne peut, à mon sens, n'être que une parole politique, en fait. Et c'est ce que je dis dans l'ouverture de mon bouquin. C'est moi, je suis la génération de 68, pour vous dire. Et à l'époque, les trotskistes, enfin bon, j'étais dans le coup, j'étais dans l'histoire assez activement, et les trotskistes posaient toujours la question, ils disaient, mais d'où tu parles? Qu'est-ce qui t'autorise à parler? Alors, on peut, encore une fois, pour redire Lacan, on peut s'autoriser de soi-même, mais ça ne suffit pas. Il faut structurer sa pensée sur autre chose que le goût personnel. Ça,
Bien
la
sûr.
critique cinéma s'est construite comme ça. Ensuite, ils sont tous partis faire des films eux-mêmes. Enfin, je parle de Truffaut, je parle de Chabrol, enfin de Godard. Ils ont un beau jour compris que ben, il fallait passer à l'acte. Ben, bien joli dire. Mais il y a un moment. Mais voilà, ça ne peut être que politique. Et je pense vraiment que le parfum peut être pris comme un objet politique. C'est-à-dire que vous dénoncez le rouleau compresseur, entre parenthèses, de l'industrie, ça, c'est un point de vue politique que
Tout à
je
fait.
partage. Que je partage. Voilà, il y a un point de vue qu'il faut décrypter, et c'est à ça que sert une éventuelle critique. Il faut lire le parfum comme un objet social et économique. Bon, on peut éventuellement parler de son harmonie, c'est important, bien sûr, de sa beauté, naturellement. Mais pour en parler, encore faudrait-il savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que, voilà, bon, c'est facile de dire j'aime pas, et d'où tu parles précisément? Qu'est-ce que tu connais, toi à l'IBQ, à l'acétate styraline, enfin, que sais-je.
Exactement.
Je crois que pour. Voilà. Et donc, je suis assez contre la critique parfum telle qu'elle s'exerce. Il faudrait savoir écrire aussi. Sinon, moi, ça me tombe des mains, quoi. Ça me tombe des mains. Genre, voilà. Alors. Donc, on trouve en arrière-goût, on va sentir une larme d'olivan qui tombe sur un chêne bien rugueux. Moi, je ne comprends pas ça. Ça ne m'intéresse pas.
Trop poétique ou...
Oui, enfin, il faut sortir de ça.
Mais j'ai compris, ouais.
Ça n'a aucun intérêt. Les papiers parfums qui vous font le coup de la petite fleur ou du fruit gorgé de soleil, c'est bon, quoi. Hein. Non, mais sérieux.
Je comprends complètement. Je comprends complètement. Ouais.
Donc, il faut mettre le moins dans le cambouis. Moi, je l'ai fait. C'est pas pour ça que je. D'ailleurs, j'ai jamais fait de critique de parfum. J'ai raconté des histoires dans un cadre précis, hein.
Oui.
Mais bref, avant ça, je suis quand même allée sentir. J'ai été apprendre un peu.
Bien sûr.
Donc, je sais un tout petit peu de quoi je parle quand je sens un truc. Mais ce qui m'intéressait, mais c'est mon job de journaliste, hein, et encore dans un secteur entièrement dominé par les annonceurs, donc sans liberté. À l'intérieur de ça, j'ai essayé de raconter des histoires, mais qui pour beaucoup sont fausses. Pour en revenir à la critique, je pense que moi, je n'en ai jamais fait.
Ouais, on sent du point de vue. J'aime bien cette. En fait, vous n'êtes pas la première personne à dire. Je crois qu'on avait parlé, il me semble, avec justement Clément Paradis de Né, où il disait qu'il y a une dimension politique derrière beaucoup de choses, de toute façon, et que c'est assez intéressant aujourd'hui d'arriver à un point. Où on a écrit, beaucoup de gens ont écrit sur le parfum, et commencent à se rendre compte que ben, oui, il y a une dimension sociale et politique derrière chaque chose, et le parfum en fait partie. Ben, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, nous, on est des. On sort, on est né de la dernière pluie, je veux dire, donc il a fallu qu'on soit un peu moins con pour se réveiller dessus, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant.
Oui, mais je pense que c'est vrai. Enfin, c'est exactement. C'est comme les programmes télé. C'est comme. Faut pas moi. C'est comme la fabrication des yaourts. Enfin, c'est d'abord une économie et une économie, c'est politique.
C'est vrai, c'est très très vrai.
Donc, il n'y a pas d'espace pour ça. Aborder le parfum, la critique parfum sous cet angle, mais c'est trop sérieux.
Non, je pense que ça peut venir. Non, non, ça va. Je pense que ça va venir. On est à un tel degré, justement, industriel que. Il y a forcément des esprits qui ne se retrouvent pas dedans. Et là, on est tout de suite à une espèce de. Bon, on parlait de contre-culture la dernière fois. C'est plus une résistance qu'autre chose. Contre-culture, c'est très compliqué
Mais
comme
ce n'est pas une résistance
terme.
contre le parfum.
Non,
Le
non,
parfum,
non.
c'est peanuts là-dedans.
Bien
C'est
sûr.
l'état du monde. C'est
Exactement.
l'état du monde.
Exactement.
Moi, j'ai un copain, je le raconte dans le bouquin. C'est avec lui que j'avais fait ce test sur la rose. Il était gamin à l'époque et je ne connaissais rien au parfum, mais ça l'amusait. Alors donc, j'ai essayé de lui expliquer des choses, de lui raconter des trucs, et de lui faire sentir des machins. Et ensuite, ça l'a passionné. Et il s'est mis à écrire. Et il s'est mis à écrire vraiment bien. Il a été assistant de. Enfin, il a travaillé avec mon copain Jean-Michel Duriez, qui à l'époque n'était pas tout. Et etc., etc. Et puis finalement, il a lâché l'affaire. Il a gagné un prix Jasmin. Dont tout le monde a pensé que c'est moi qui l'avais écrit, ce qui était quand même bien dégueulasse. Bah oui, c'était pas sympa pour lui. Et parce que surtout, moi, j'avais fait un lobbying d'enfer, hein. Bref, il a eu son jasmin. Et puis après, il devait aller à Vogue. Et puis, il y a eu des bisbilles. Et puis, ça s'est pas fait. Et il a décidé qu'il lâchait le truc. Mais pendant des années, il a continué à s'intéresser à la chose, à aller sentir, sentir. Puis un beau jour, il s'est mis à faire la cuisine. Et aujourd'hui, le parfum est sorti de sa vie, mais
Oui.
il prend une écorce d'orange et il la frotte sur sa peau et il est content.
Simple.
Voilà.
C'est beau.
Ouais, j'aime. Voilà. Ça, c'est un parti pris.
Ouais, complètement. Dans Pot pourri, il y a plusieurs chapitres sur le numéro 5. C'est des chapitres qui m'ont vraiment passionné. J'ai pas fini, hein, j'ai pas fini le livre, je l'ai dit ici. J'espère le finir très vite.
Oh.
Ouais, je sais, je suis méchant. Mais les chapitres sur le numéro 5 m'ont passionné. Il y en a qui sont épais, il y en a qui sont plus courts, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, bon, c'est numéro 5, quoi. Hein, je veux dire, dans l'histoire du parfum. Voilà quoi, c'est une place monumentale. Mais moi, ce que j'aime justement en lisant tout ce qui se trame au moment de la création, etc., c'est une fois de plus l'importance du storytelling. On parlait de raconter des histoires. Est-ce que vous pensez, en tant que personne qui a une vraie lecture, particulièrement justement dans le storytelling, est-ce que vous pensez qu'on peut échapper à la puissance, on va dire le poids du storytelling dans l'appréciation d'un parfum?
Bah, je suppose que si ça existe, c'est que les contes de fées, ça a toujours plu. Ça existe depuis toujours, les contes de fées. Donc le parfum, c'est un conte de fées. Il faut le voir comme ça. Il faut l'entendre comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein, du tout. Parce que moi, les contes de fées, j'ai jamais cru au Père Noël, par exemple, quand j'étais petite. Je savais très bien que c'était ma maman qui préparait quelque chose de là. Non, non, j'y ai jamais, jamais cru. Et je me souviens même qu'il y avait dans l'école où j'étais, il y avait de l'éducation religieuse et que je me suis fait virer parce que la bonne sœur qui faisait la classe commence à nous expliquer la Genèse. Et le sixième jour, Dieu créa l'homme. Moi, je dis, mais non, le sixième jour, la terre, c'était une boule de feu. Et j'ai été virée de l'école à cause de ça. C'est-à-dire que je ne suis pas, voilà, je ne crois pas, je suis assez sceptique en règle générale. Et donc, les contes de fées, vous pensez bien que c'est plus de mon âge. Mais pour une raison que j'ignore, les gens doivent aimer ça. Ça peut-être ça les rassure, ou alors ils se racontent ils sont plus riches qu'ils ne sont, puisqu'ils peuvent s'offrir un truc de grand prestige. Enfin, je sais pas.
Ça les fait
C'est, je
rêver.
crois que ça les fait
C'est ça.
rêver. Mais moi, je pense qu'on peut rêver simplement devant. Moi, j'habite, je suis à 10 mètres de l'océan. Je rêve en regardant la mer, hein.
Évidemment.
Bon, mais tout le monde ne vit pas au bord de l'océan. Parfois, on vit effectivement dans un HLM à Bagnolet et c'est le périphérique qu'on voit de sa fenêtre.
Est-ce qu'on peut échapper malgré tout? Parce que voilà, les gens ont besoin de rêver, ok, on n'est pas tous pareils de toute façon.
Ah, échapper au storytelling?
Ouais, échapper au poids, ouais.
Bah oui, à condition de faire contrepoids avec d'autres arguments et pas des arguments ésotériques. Avec de la matière, avec de la culture. Check. On s'en sort pas sans ça. Hein. Si vous oubliez, par exemple, ça c'est un phénomène qui paraît-il se répand vraiment, c'est que les jeunes gens, les gens jeunes, ne savent plus écrire à la main.
Oui.
Ils ne savent écrire que sur un clavier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus non plus lire un texte à la main.
Effectivement.
C'est une vraie déperdition. Alors je vais vous faire le coup de la vieille schnock, mais franchement, c'est pas que c'était mieux avant, mais enfin, je n'ai jamais vu autant de fautes d'orthographe que sur les réseaux sociaux.
Ah oui.
Ça me sidère, quoi. Mais pas parce que l'orthographe, ça sert à quelque chose, ça a du sens. Ça permet d'affiner les mots et en affinant les mots, sa pensée, etc. Donc il y a une déperdition. Il y a une déperdition humaine. Voilà.
Complètement.
Maintenant, ce qu'il en sortira, je serai morte. C'est pas que je m'en fous, mais la fin de l'humanité, on va pas en faire un fromage. Hein, les dinosaures, ils ont duré plus longtemps et ils sont plus là, personne ne les regrette.
Personne ne regrettera de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais vous parliez de faire contrepoids avec la culture. Vous pensez que le storytelling, justement, c'est d'une certaine manière, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est-à-dire, il y a telle absence de culture qu'il faut des arguments.
La seule chose qui compte, pardon, je vous interromps, mais la seule chose qui compte, ce qu'il y a derrière le storytelling, c'est la vente.
Oui.
Point bas.
Bien sûr.
Donc, bon. Moi, je trouve plus amusant de savoir que Gabrielle, dite Coco Chanel, s'appelait Bonheur. C'est son deuxième prénom.
Ouais.
Bon.
Ouais.
Je sais pas si elle est en application, mais c'est rigolo. Ouais. Et je me servirais de ça, moi, si j'étais au marketing chez Chanel, j'essaierais de construire un truc autour de Gabrielle. Bonheur.
Je pense que le patrimoine est justement, c'est pour ça que je parlais de culture, je pense que le patrimoine des grandes marques, on va dire, est un peu écrasé finalement par storytelling, alors que le patrimoine en lui-même, il est déjà gigantesque. On peut tout faire.
Je ne sais pas, parce que les archivistes de ces maisons, je les connais, ils font un sacré boulot aussi quand même.
Oui. Bien
Vraiment.
Sûr.
Ils préservent ce qui n'était pas le cas autrefois. Moi, je me souviens d'une année pour mon précédent bouquin, il y a donc 30 ans. Enfin, j'en ai fait un autre entre-temps, mais bon. Il y a 30 ans, je faisais mon premier livre et j'avais besoin d'illustrations. Et j'étais très copine, je m'entendais bien avec les gens de chez Berlin et j'étais particulièrement copine avec leur directrice de la com, machin. Et je lui demande, t'as des documents, etc. Elle me dit, oh là là, faut que tu ailles à Courbevoie, c'était là qu'était l'usine à l'époque, et que tu fouilles. Et donc je suis allée à Courbevoie et je me suis retrouvée à fouiller dans des cartons entassés dans un hangar ouvert à tous les vents. Et c'était et voilà et la fameuse photo, j'en ai trouvé deux hein, enfin j'en ai trouvé plein d'autres, mais de Jacques Garlin en train de sentir ses mouillettes, ben je l'ai trouvé là, les GI qui font la queue devant la boutique de la place Vendôme, je crois, pareil, il y avait des étiquettes de produits de la fin du 19e siècle, il y en avait, mais partout. Enfin, donc, ça n'existait pas encore à cette époque-là, la protection du patrimoine.
Bien sûr, c'est sûr. Il
n'y
a pas la même nécessité.
Non, mais ils ont compris que c'était très important.
Bien sûr.
Et toutes les grandes maisons le font, hein, vraiment. Mais je dois aussi reconnaître à toutes ces grandes maisons qu'elles font des efforts culturels très importants. Les journées, je ne sais pas comment ils appellent ça, les ateliers, ou je ne sais pas quoi, chez LVMH, d'aller voir
Oui.
les brodeurs, sure. D'aller voir tout ça, c'est magnifique.
Ah,
c'est
oui.
de toute beauté, réellement. Et chez Chanel, les expositions, quand vous les voyez,
ouais.
elles sont renversantes. C'est vraiment, c'est très respectable, ça.
C'est vrai.
Donc, je ne peux pas, voilà. Voilà, il y a quand même un respect de, il y a quand même un respect de leur parce que alors si pour être méchante jusqu'au bout, c'est parce qu'ils y ont intérêt sans doute, mais pas que.
Bien sûr,
je crois
non,
pas
pas
que,
que pas que mais
non,
ils
pas
ont
que.
forcément intérêt, c'est évident.
Bah, évidemment, c'est la base de, c'est l'histoire qui leur permet d'être encore là,
Oui.
évidemment. Mais vous voyez Mugler qui est mort. Et Vera Stroubi, quand elle est partie, quand elle a cessé de diriger la société, ça s'est délité. Et il n'y a plus eu ce qu'elle inventait tout le temps. Elle inventait des trucs qui sont repris maintenant, absolument formidables. Bon, voilà, il n'y a plus personne pour s'en occuper.
C'est vrai.
Et ça se perd, c'est dommage.
Ah oui, il y a un vide, hein. Complètement.
Donc chez Lancôme, c'est moins visible. Hein. L'Oréal est moins investi dans le patrimoine. Ils sont beaucoup plus sur la recherche, où ils sont excellents, ça y a aucun doute. Mais sur le patrimoine, c'est pas très, très, très fort. Hein.
Ouais, c'est
Donc,
pas très mis en avant, en tout cas, c'est vrai.
non, ça ne l'est pas. Bah, il faudrait à ce moment-là, effectivement, il serait obligé de dire que Eugène Schueller était un collabo racialiste.
Je l'attendais.
Et c'était compliqué parce qu'il y avait donc, d'un côté, il y a eu les mecs qui étaient dans la phalange. La phalange, c'était une espèce de milice d'extrême droite. On parle des temps de la guerre, là, de la guerre de 40. Et de l'autre côté, un type comme François Dalle, qui a été très longtemps président de L'Oréal, était résistant. Et c'est lui qui, enfin, il a rencontré Mitterrand en tant que résistant à l'époque. Et c'est lui qui l'a nommé à la tête, non pas de L'Oréal, mais de Votre Beauté magazine qui appartenait autrefois à L'Oréal. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est rigolo de savoir que François Mitterrand était directeur de la publication de Votre Beauté.
D'accord.
Mais il y avait donc ces gens qui s'étaient combattus pendant la guerre et qui se sont retrouvés ensuite au sein de l'entreprise. Ben, il y a plein d'histoires, il y en a tellement, je vous dis,
Ben, c'est
c'est
marrant.
formidable. Très
C'est
intéressant.
étonnant.
Mais effectivement, mais c'est dommage, Lancôme devrait faire enfin, Lancôme et d'autres maisons il y a beaucoup, beaucoup de choses chez L'Oréal quand même. C'est dommage de pas mettre ça un peu en avant, quoi. En inventant du storytelling, qu'importe.
Et en parlant de valorisation et de partage, j'avais une question à vous poser sur votre livre Peau pourrie, que moi j'ai dévoré et terminé, n'est-ce pas? Alors moi j'ai adoré votre livre, vraiment. J'ai aimé
Magnifique.
votre façon d'écrire totalement décomplexée. Vraiment, on ne s'ennuie pas un seul instant. J'ai adoré le format. Et moi, ma question, c'est... Comment vous est venue l'idée et quand vous est venue l'idée de collecter toutes ces anecdotes, ces histoires et ces moments sur le parfum, tout ça? Comment vous avez fait ces...
Bah, d'abord, j'ai une longue mémoire, j'ai de la doc, j'ai fait ça quand même pendant un paquet d'années, hein. Et puis après, bah, quand j'étais dedans, je lis tout le temps. Moi, je passe ma vie à lire, je lis beaucoup de presse aussi, j'apprends des trucs dont je ne me souviens pas forcément, mais donc je les note, je les mets dans un coin, après, il faut les retrouver. Et donc, j'avais un peu de matos. Et puis ensuite, ensuite j'ai fait mon boulot, j'ai cherché. Mais une idée en amène une autre. Puisque ce bouquin est composé, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de textes qui n'ont rien à voir les uns, enfin, apparemment rien à voir les uns avec les autres,
Apparemment.
et qui sont dans une longueur très variable. Sur des, on va dire, cinq thématiques différentes, mais enfin bon, bref, et ben, une idée en amène une autre. Après tout, les Japonais n'aiment pas le parfum, je ne les titrerai comme ça qu'après avoir constaté que j'avais trois sujets autour des Japonais et du parfum et que j'allais en avoir d'autres. Donc voilà, c'est ça le travail, somme toute, hein. Et en même temps, c'est ça, écrire un livre et pas un article, c'est qu'on a toute la place.
C'est vrai.
Et on peut mettre un pas après l'autre, comme ça, au fur et à mesure. Et ça, c'est formidable, j'avoue que chez moi, j'y ai pris un plaisir énorme.
Ça se sent. Ça se sent, on prend
Puis
un
j'ai de la
plaisir à lire, c'est incroyable. Moi, j'aime trop, j'ai beaucoup aimé.
Mais vous savez quoi, pour le finir, mettez-le aux toilettes.
Hein?
C'est formidable.
À côté de mon lit, c'est préférable.
Moi, je...
Oui,
voilà, moi, c'est...
il y a plein de gens qui adorent lire aux chiottes, pardon, aux toilettes. Et
J'essaie.
ben, c'est une bonne lecture de toilettes, je vous assure.
Je vais voir discuter avec la famille.
Ça dépend par jour dans cet usage.
Oh, on a dit que le lit, c'est le meilleur endroit. On est bien. Bah, après, des
Ah,
fois, on n'a pas la
c'est vrai. Moi,
on a la flemme des fois.
ah non, moi, c'était mon livre de chevet, j'avoue.
Voilà.
Je l'ai dévoré en livre de chevet, mais du coup, on n'a pas sommeil. On cherche le chapitre d'après, notamment sur les Japonais.
Ouais, c'est vrai.
Bah, ouais, bah c'est gentil de dire ça.
Non, mais c'est
Non,
vrai.
vraiment, c'est vraiment
Super.
un beau livre et c'est pour ça qu'on disait c'est un concentré de culture et nous on accorde beaucoup d'importance à la culture et voilà, il y a tout ce qu'il faut dans ce livre. Il y a tout ce qu'il faut.
Bah, j'aimerais bien qu'ils se vendent. Ce
Bah,
qui, pour
on espère.
l'instant. Ouais,
Sold
non, mais
out.
c'est pas non plus. Hein. Bon, c'est compliqué de vendre un livre comme ça
C'est vrai.
parce que les gens ne savent pas où le caser. C'est pas. Dans la presse, j'ai eu très très peu de presse parce que évidemment, c'est pas un livre pour magazine féminin, quoi. C'est pas un truc comme ça. C'est pas. Enfin bon, bref. Mais je pense que c'est comme ce qu'il y a de bien chez Né, c'est qu'ils vont pas le mettre au pilon
Oui.
et que ça peut durer comme ça. Ça va rester dans la collection.
Ouais. Bien sûr.
Exactement.
Alors, je sais pas combien vous avez d'auditeurs.
On est... En tout cas, il faut qu'ils aillent tous l'acheter un par un. Comme ça.
Comment? En double exemplaire parce qu'il faut l'offrir.
Évidemment, évidemment. Évidemment.
Non, non, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas écrit du tout. D'abord, je ne l'ai pas écrit au début pour faire un livre. C'est venu progressivement. Au bout d'un moment, je me suis dit que je tenais un truc, quoi. Que ça ressemblait à quelque chose. Et puis après, je me suis dit que mais personne au monde n'éditerait un truc pareil. C'est Denise Beaulieu à qui je l'avais envoyé en PDF, qui m'a dit bah, chaîner. Et je ne voulais pas, parce qu'il ne m'avait jamais contacté avant et que j'étais vexée.
Oh,
Ben, oui!
bah, c'est réparé là.
Voilà, et effectivement, ils ont ni une ni deux, ils m'ont dit bah, tout de suite, on le prend. Et donc, sans eux, ce livre ne serait jamais paru, quand même. Et ça, je suis absolument certaine. Mais je ne l'avais pas fait pour ça. Et je ne l'avais pas non plus fait pour gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais maintenant qu'il est fait, et que je vous avoue en toute immodestie que moi aussi, je l'aime bien,
Ouais.
ben, voilà, c'est sympa si les gens me lisent, quoi.
Ouais, puis qu'ils payent, même s'ils n'ont pas envie de le lire, au moins ils l'achètent.
Ouais.
Hein.
Bon, ça, c'est un peu con, non?
Bah non, c'est pas grave. C'est con pour eux, pas pour
Non, mais pourquoi est-ce qu'on achèterait un livre enfin, quoi que ça m'est bien souvent
Ah, bah,
arrivé.
il y a beaucoup de gens qui font ça.
Oui. Ouais, moi
Non,
j'ai une
non.
pile de livres. J'ai une pile de livres. On
Pile
veut,
de livres. Ouais,
on est
des livres à
décidé, et
lire,
puis. Ouais, c'est ça. Finalement, il est là, il prend la poussière, c'est insupportable.
ouais, non, mais c'est sûr. Et moi, j'ai acheté ça. J'aime les livres. Je trouve ça. J'aime les livres. Alors, évidemment,
Ça.
parfois, je n'insiste pas. J'en achète plein et je ne les lirai pas.
Voilà.
Enfin. Ou alors je commence et puis ça m'emmerde et j'arrête.
C'est ça. On est tous pareils. Ah, oh, ça va venir. Petit à petit, on va les lire. J'espère.
Oui, ou pas,
Ou
ou
pas.
pas. Comment il s'appelle? Daniel Pennac, qui a longtemps été cancre, quand il était petit à l'école, il était cancre. Et il a beaucoup souffert. Et puis après, il est devenu prof quand même. Et puis, il est devenu écrivain, surtout, avec sa série des Malocènes, qui est vachement bien, que je recommande aussi. Rien à voir avec moi, mais vraiment bien. Et il a fait un livre dont je ne me souviens plus du titre, où il raconte comment on peut se mettre à aimer lire. Et il dit que, par exemple, il ne faut jamais forcer un enfant à lire un bouquin. Et que, surtout, il ne faut pas s'obliger à lire un truc si on n'y prend pas plaisir
Eh
et
oui.
qu'on est libre d'arrêter comme on veut, quand on veut, lire 4 pages et s'arrêter. Enfin, que c'est quand même un territoire de liberté. Et
C'est
je
vrai.
trouve que c'est vraiment, c'est absolument ça. Voilà. En tout cas, moi, je me l'autorise. Donc, achetez mon bouquin et ne le lisez pas si finalement vous ne voulez pas.
Simplement, voilà. On tombe d'accord.
Ben oui.
Ah, très bien, Maïté, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Vraiment,
Ah, mais tout va bien.
Un gros merci. On sait que vous n'allez pas dormir tout de suite. J'ai bien compris
non.
que.
Non. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée.
Bah, nous
Merci à vous
aussi.
aussi.
Une bonne continuation.
Mais c'était un plaisir, en tout cas.
Bah, pas autant pour nous, hein. Franchement,
Bah
je suis
si,
vraiment
pourquoi?
honoré.
Ah
Ah,
oh, oui,
si.
c'est ça.
Honoré.
Non,
C'est
non,
vrai,
non,
hein.
mais là, je prends 40 ans sur la tête, qu'on se calme. Non, non, c'était un plaisir.
C'est gentil, c'est très gentil.
À bientôt.
À très très bientôt, merci beaucoup,
À
Maïté.
bientôt. Au revoir.
Au
Au
revoir.
revoir. Je sais très bien, je sais où il m'allait
Quand même.
quand même. Puis j'habitais Montreuil.
Ah voilà, la capitale. La
Deuxième
capitale.
ligne maillienne du monde.
Ah oui, incroyable.